France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki.
Si vous voulez, c'est comme une maison, un dictionnaire. Il y en a qui sont accueillantes, mais il y a des maisons, la porte est fermée. Le mot, le petit mot nouveau là, que tout le monde dit, meuf, keuf, je sais pas quoi, moi, kiffé, il cogne à la porte, et puis le dictionnaire, il y a des messieurs très sérieux qui disent derrière, mais ça, c'est pas des mots corrects, c'est pas des mots qu'on va apprendre à l'école, tu rentres pas. Mais nous, on est assez porte ouverte, enfin bon, dans la mesure du possible, parce qu'il faut aussi quand même choisir. Il y a des insultes, il y a des mots dégueulasses, il y a des mots qui sont pas beaux. Dégueulasse, d'ailleurs, c'est pas très beau, mais il est quand même dans le dictionnaire parce qu'il est très courant et que tout le monde l'emploie.
Moi, j'aime beaucoup dégueulasse, et d'ailleurs, à chaque fois, je me fais reprendre, il faudrait dire dégoûtant. C'était Alain Rey, quel plaisir de l'entendre. Alain Rey qui nous a quittés cette année. Il était au micro de C'est pas sorcier, d'ailleurs, c'est le titre de cette émission sur France 3, et non pas Ce n'est pas sorcier, à l'adresse des enfants, ou comment rendre pédagogique, accessible à tous, la découverte et la science. Vous regardez parfois Rachid Santaki ?
Je regardais cette émission jadis.
Quand vous étiez un tout petit peu plus jeune qu'aujourd'hui. C'est bien ça.
Oui, effectivement.
Bonjour à vous, Rachid Santaki. Merci d'être avec nous.
Bonjour, Olivia, et bonjour à Maud.
En direct de chez vous, en Seine-Saint-Denis, où vous êtes toujours et encore confiné, comme la plupart d'entre nous. En tout cas, pas de possibilité de vous avoir pour le moment en studio. Alors, pas confiné, puisque le confinement a été levé, reste maintenant le couvre-feu. Mais j'espère qu'on va bientôt pouvoir vous retrouver en studio, en tout cas Rachid Santaki, ainsi que nos invités. Aujourd'hui, l'éditrice et écrivaine Maud Simoneau. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour Rachid.
Vous êtes l'auteur en cet automne de L'Enfant Céleste, un ouvrage paru aux éditions de l'Observatoire, un beau conte, une ode aussi à la beauté de la nature, à la relation filiale qui peut s'établir. On va en reparler et vous êtes surtout là pour aiguiser votre crayon, affûter votre orthographe et vous avez accepté, on vous en remercie, de participer à cette grande dictée de Rachid Santaki. Vous pouvez d'ailleurs, auditeur de France Culture qui est avec nous, retrouver Rachid Santaki en vidéo sur le Facebook de France Culture. Rachid, quel texte avez-vous choisi aujourd'hui ?
Aujourd'hui, j'ai donc choisi un extrait de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand.
Pourquoi lui ?
Pourquoi lui ? Cyrano de Bergerac, je n'ai pas eu l'occasion de vous proposer d'extrait de ce texte, donc c'est l'occasion et nous allons pouvoir confronter Maud également à cet extrait.
Pour le panache de l'auteur et du personnage aussi, peut-être, c'est quand même une des pièces les plus populaires de notre répertoire. Un film, une adaptation à l'écran par Alexis Michalik a rendu encore plus populaire ce personnage de Cyrano de Bergerac au long nez. On connaît cette scène-là, c'est pas celle que vous avez choisie ?
Non, j'ai choisi une autre scène.
Voilà le moment où il déclare aussi et déclame ses vers et ses mots à l'intention de Roxane, celle qu'il désire et qu'il aime. On va rappeler les règles, Maud Simoneau. Rachid Santaki va faire d'abord une première lecture pour vous mettre le texte dans l'oreille. Une seconde lecture où il faudra pour vous prendre note. Et une troisième lecture correctrice où on tentera de revenir ensemble sur les points de difficulté éventuels de cette dictée, les mots inconnus, les petites contradictions, les torsions de la langue. Nous allons voir ça ensemble, s'il y en a dans ce texte d'Edmond de Rostand. Est-ce que c'est tout bon pour vous, Maud Simoneau ?
Oui, j'ai pris mon stylo plume qui fait des pleins et des déliés. Je suis prête.
Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait de dictée ?
J'en fais beaucoup avec mes enfants, en réalité. Donc je baigne dedans.
Oui, mais c'est vous qui donnez la dictée dans ces moments-là.
Oui,
alors.
Mais je participe activement.
Ah ouais.
Donc ça m'est assez familier. Non, je suis très contente de refaire une dictée. Ça fait, je sais pas, ça va donner mon âge. Ça fait 30 ans.
Ça fait quelques années, voilà. On en est tous à peu près au même point. Rachid Santaki, c'est à vous.
Donc, première lecture. Au milieu de la rôtisserie, un cercle en fer que l'on peut faire descendre avec une corde et auquel de grosses pièces sont accrochées, fait un lustre de gibier. Les fours, dans l'ombre, sous l'escalier, rougeoient. Les cuivres étincellent. Des broches tournent, des pièces montées, pyramides, des jambons pendent. C'est le coup de feu matinal. Bousculade de marmitons effarés, d'énormes cuisiniers et de minuscules gâte-sauce. foisonnement de bonnets à plumes de poulet ou à ailes de pintade, on apporte sur des plaques de tôle et des clayons d'osier des quinconces de brioche, des villages de petits fours, des tables sont couvertes de gâteaux et de plats. D'autres, entourés de chaises, attendent les mangeurs et les buveurs. Point de suspension. Et fin de cette première lecture.
Alors, sur cet extrait, Rachid Santaki, précisons qu'il s'agit là de la didascalie qui introduit le deuxième acte de la pièce. Voilà pour le côté très descriptif, l'auteur Edmond Rostand campe le décor. C'est vrai qu'il aimait bien en plus, hein, Rostand donner des détails, des instructions assez précises au metteur en scène à travers ses didascalies. Là, il rencontre de l'atmosphère de ce restaurant, de cette rôtisserie, de l'intérieur, et Cyrano y attend Roxane. C'est parti pour la dictée.
Au milieu de la rôtisserie, virgule, au milieu de la rôtisserie, virgule, un cercle en fer, au milieu de la rôtisserie, virgule, un cercle en fer que l'on peut faire descendre, un cercle en fer que l'on peut faire descendre avec une corde, virgule. Avec une corde, virgule. Et auquel de grosses pièces, et auquel de grosses pièces sont accrochées, virgule. Et auxquelles de grosses pièces sont accrochées, virgule, fait un lustre de gibier, point. Je répète, et auxquelles de grosses pièces sont accrochées, virgule, fait un lustre de gibier, point. Les fours, virgule, dans l'ombre, virgule, les fours, virgule, dans l'ombre, virgule, sous l'escalier, virgule, je répète, les fours, virgule, dans l'ombre, virgule, sous l'escalier, virgule, rougeoie, point. Je répète, les fours, virgule, dans l'ombre, virgule, sous l'escalier, virgule, rougeoie, point. Les cuivres étincelles, point. Les cuivres étincelles, point. Fin de la dictée pour les écoliers. Les cuivres étincelles, point. Fin de la dictée pour les écoliers. Des broches tournent, point. Des broches tournent, point. Des pièces montées, pyramide, point. Je répète, des broches tournent, point. Des pièces montées, pyramide, point. Des jambons pendent, point. Des jambons pendent, point. C'est le coup de feu matinal, point. Je répète, des broches tournent, point. Des pièces montées, pyramide, point. Des jambons pendent, point. C'est le coup de feu matinal, point. Bousculade de marmitons effarés, virgule. Bousculade de marmitons effarés, virgule. D'énormes cuisiniers et de minuscules gâte-sauce, point. Je répète, bousculade de marmitons effarés, virgule, d'énormes cuisiniers et de minuscules gâte-sauce, point. Foisonnement de bonnets à plumes, foisonnement de bonnets à plumes de poulet, foisonnement de bonnets à plumes de poulet, ou à L de pintade, point, ou à L de pintade, point, foisonnement de bonnets à plumes de poulet, ou à L de pintade, point. On apporte sur des plaques de tôle, on apporte sur des plaques de tôle et des clayons d'osier et des clayons d'osier. Je répète, on apporte sur des plaques de tôle et des clayons d'osier des quinconces de brioche, virgule, des quinconces de brioche, virgule, des villages de petits fours, point. Je répète, et des clayons d'osier, des quinconces de brioche, virgule, des villages de petits fours, point. Des tables sont couvertes de gâteaux et de plats, point. Je répète, des tables sont couvertes de gâteaux et de plats, point. D'autres entourés de chaises, virgule, attendent les mangeurs. D'autres entourés de chaises, virgule, attendent les mangeurs et les buveurs, point de suspension. Je répète, des tables sont couvertes de gâteaux et de plats, point. D'autres entourés de chaises, virgule, attendent les mangeurs et les buveurs, point de suspension, et fin de cette seconde lecture.
Merci beaucoup à vous, Rachid Santaki. On va maintenant relire et corriger ensemble cette dictée. Extrait de Cyrano de Bergerac, d'Edmond de Rostand. Comment ça s'est passé pour vous, Maud Simoneau?
Ça va, c'est un beau passage, ça donne faim. j'ai des questionnements sur les pluriels, les tirets et ce genre de choses, mais ça va être intéressant.
Ouais, entre deux effluves de cette rôtisserie de parfums, on va tenter de décrypter un peu ce qui se joue ici à travers l'orthographe des mots, la grammaire et la conjugaison. Alors, au milieu de la rôtisserie, rôtisserie, c'est un peu le maître mot de cet extrait. Vous l'écrivez avec quelle petite singularité, particularité ?
Avec un accent circonflexe,
oui, sur le haut. Deux S-E-R-I-E. Un cercle en fer. Fer, c'est le matériau, F-E-R, que l'on peut faire, cette fois, descendre, F-A-I-R-E. Descendre avec...
S-C.
Ouais. D-E-S-C, exactement. E-N-D-R-E, avec une corde. Ici, pas de difficulté, je pense, et auxquelles de grosses pièces sont accrochées. Alors, de grosses pièces, on en déduit que c'est bien au pluriel, elles sont plusieurs, nombreuses, et elles sont accrochées. Comment vous écrivez accrochées ?
A-D-C-R-O-C-H-E-S.
Exactement, on accorde avec le verbe être. Faites un lustre de gibier. Le mot gibier.
Mais j'ai écrit G-E-B-I-E-R, mais j'ai mis A-S. Je me suis dit qu'il y en avait plusieurs.
Alors, il n'y a pas de S.
D'accord.
Un lustre de gibier. C'est vrai que la logique, on imagine des gibiers accrochés tout autour du lustre, à la place des ampoules ou des pierres précieuses. D'accord. Mais là, c'est un lustre de gibier sans S. Rachid Zantaki.
Oui, j'aurais pensé également que l'illustre est fait de plusieurs gibiers. Mais...
Ou alors c'est le nom collectif, le nom générique, le gibier de ces animaux que l'on chasse. C'est pour indiquer de quoi ce lustre est fait. Il est fait de gibier de ces animaux que l'on chasse pour les manger. Les fours, dans l'ombre, sous l'escalier, rougeois. Les fours, F-O-U-R-S, virgule dans l'ombre, un M devant le B, bien sûr, sous l'escalier, rougeois. Comment avez-vous écrit ce rougeois ?
R-O-U-G-E-O-I-E-N-T.
Voilà, pourquoi ?
Parce que sinon ça ferait rougois.
Exactement, on tombe avec les rougons-macquarts et on change de catégorie à ce moment-là. Rachid ?
Les cuivres étincelles, point. Donc, les cuivres au pluriel, C-U-I-V-R-E-S. Étincelles, donc accent aigu, T-I-N-C-E-2-L-E-N-T, point. Des broches tournent, donc des broches plurielles, tournent, T-O-U-R-N-E-N-T, point. Des pièces montées pyramides, donc pièces montées...
Ah, est-ce que vous avez mis un trait d'union, ouais, Motsimono, pour
oui,
les pièces montées
j'ai mis un trait d'union.
Apparemment, Edmond Rostand n'en met pas. Mais je trouve aussi que la question pouvait se poser. Des pièces montées, pyramide. Et là, c'est le verbe. P-Y-R-A-M-I-D-E-N-T.
Ah, alors là, moi j'avais mis pyramide entre guillemets.
Ouais.
D'accord.
Et là, c'est l'idée de pyramider. Elles sont pyramidales, elles montent dans cette direction-là. On est dans cette succession de verbes, les cuivres qui étincellent, les broches qui tournent, les pièces qui pyramident. Juste un mot sur le rougeois qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est bien le verbe rougeoyer. Donc là encore, G-E-O-Y-E-R à l'infinitif, enfin à l'infinitif justement avec un Y. Et donc quand le verbe se conjugue, les fours rougeois, il rougeois, le Y se transforme en O-I-E-N-T sur la fin, également pour le mot rougeoiement, qui s'écrit R-O-U-G-E-O-I-E-M-E-N-T. On continue. Des jambons pendent, le verbe pendre, P-E-N-D-E-N-T. Jambon, J-A-M-B-O-N-S. C'est le coup de feu matinal, pas de difficulté, on n'oublie pas le P à coup. Bousculade de marmitons effarés. Bousculade sans S, Motsimono.
Oui, je n'ai pas mis parce qu'il y avait foisonnement après où je n'en ai pas mis, mais j'ai hésité beaucoup.
Vous avez eu raison, sur les deux, pas de pluriel, ni sur bousculade, ni sur foisonnement qui arrive ensuite. Bousculade de marmitons, M-A-R-M-I-T-O-N-S, effaré. Les marmitons, ce sont ces jeunes cuisiniers, ces apprentis cuisiniers que l'on retrouve dans les restaurants. Effaré, E, deux F, A-R-I-T-O-N-S. Et S, d'énormes cuisiniers, donc là on est au pluriel, à énormes et à cuisiniers, et de minuscules, toujours au pluriel, gâte-sauce. Comment vous l'écrivez ?
Alors j'écrirais G-A, accent circonflexe T-E, tiré, S-A-U-C-E-S.
Parfait, il y a un S à sauce, mais pas à gâte, hein, de minuscules gâte-sauce. G-A, accent circonflexe T-E, trait d'union, S-A-U-C-E-S.
C'est un joli mot. Gâte-sauce.
Mais apparemment, ça n'en fait pas pour autant, Rachid, un bon cuisinier.
De bons cuisiniers, puisque ce sont de mauvais cuisiniers.
Oui, c'est ça. On comprend bien.
Foisonnement de bonnet à plumes. Alors, bonnet au pluriel et à plumes.
Ben, j'en mettrais aussi, parce plume qu'il y avait le serpent à plumes comme maison d'édition, qui avait un S, il me semble.
Alors là, c'est des bonnets à plumes de poulet ou à ailes de pintade. C'est souvent la question qui est récurrente dans ces dictées, mais là, contrairement au serpent à plumes pour la maison d'édition, où on l'imagine avec plusieurs plumes, là, c'est peut-être une indication sur la matière du bonnet.
Exactement.
Donc sans S, à plumes sans S, de poulet sans S, ou à ailes sans S, de pintade sans S.
Oui, moi j'ai mis des S partout là.
On va compter ça comme une faute. Hein,
c'est gentil.
Une fois qu'on s'est pris les pieds dans le tapis, de toute façon, la dégringolade arrive. Mais on se redresse aussi vite, une fois qu'on a peut-être compris le sens de cette orthographe choisie par Edmond Rostand. On apporte sur des plaques de tôle. Tôle
O, accent circonflexe L-E, sinon c'est la prison.
Voilà, et non pas T-A-U-L-E. Des plaques au pluriel. Et des clayons d'osier.
C-L-A-Y-O-N-S.
Et qu'est-ce que c'est pour vous des pléions ?
Les clients, je dirais que c'est des petites corbeilles, en fait.
Exactement, des petits paniers en osier, utilisés notamment pour transporter le pain. Des clayons d'osier, des quinconces de brioche. Quinconces ?
Q-U-I-N-C-O-N-C-E-S.
Bravo, c'est tout juste.
Donc quinconces de brioche, brioche au pluriel, virgule. Des villages de petits fours, pas de difficulté particulière, donc petits au pluriel, P-E-T-I-T-S, four également, F-O-U-R-S, point. Des tables sont couvertes, donc couvertes évidemment au pluriel, de gâteaux et de plats, point. D'autres entourés, donc entourés au pluriel et donc au féminin, E-E-S, E-N-T-O-U-R, E accent aigu, E-S, de chaises, au pluriel, C-H-A-I-S-E-S, virgule, attendent, A-D-T-E-N-D-E-N-T, les mangeurs et les buveurs. Mangeurs, M-A-N-G-E-U-R-S, et les buveurs, B-U-V-E-U-R-S, point de suspension. Pas de difficulté particulière, il me semble, pour ces deux dernières phrases.
Merci beaucoup, Rachid. Combien de fautes en total, Motsimono, pour vous ?
Eh bien, a priori. 1, 2, 3. Si on compte une seule faute, pas 3.
Alors, on est dans la moyenne.
C'est des S à chaque fois. Ouais. Et pyramide aussi, que j'avais mal écrit. L'utilisation en verbe me paraît toujours suspecte.
Niveau de difficulté pour vous de cette dictée ?
C'était pas très difficile. Il y a juste ces histoires du pluriel, en fait, puisque c'est un problème récurrent, là, dans la description. Voilà.
D'accord.
Mais je ne saurais jamais, enfin, je ne retiens pas. C'est comme les maisons en pierre, ça, on m'explique la règle des tas de fois, tous les ans, et je ne la retiens pas.
Voilà. Alors, on aura appris ce mot pyramidé, en tout cas pour les pièces montées, avec cette idée, ça on le voit bien, on l'imagine, on pense aux pyramides égyptiennes, de s'élever en prenant cette forme pyramidale pour ce verbe intransitif. La dictée. Vous avez renoué du coup avec cet exercice, Motsimono, et on vous en remercie pour accompagner les auditeurs d'En français dans le texte. Aujourd'hui encore, dans cette nouvelle dictée de Rachid Santaki, vous pourrez retrouver sur franceculture.fr l'intégralité de la correction si on avait oublié d'éclaircir un mot de cette dictée ou une zone d'ombre qui se posait pour vous. Vous avez, vous, imaginé le destin, le personnage de ce petit garçon, Célian, qui n'est pas si à l'aise à l'école avant de s'échapper loin avec sa mère sur une île légendaire, ce Célian. Est-ce que vous pensez que la dictée aurait été pour lui un exercice approprié ?
Oui, c'est pour ces enfants-là, c'est surtout l'orthographe en général qui est compliqué. On dit que c'est la science des ânes, mais pour cet enfant qui est si intelligent par ailleurs, la difficulté principale, c'est l'écriture. Et la dictée est cruelle. Toujours. Donc, il aurait eu 0 sur 20, sans doute. Il aurait été très peiné.
Pour cet enfant sensible et rêveur. Vous avez, vous, été biberonné aux contes et légendes, d'ailleurs, du monde entier. On se souvient de cette très belle collection qui figurait parfois chez nos parents ou chez nos grands-parents qui nous emmenaient dans tous les pays du monde à travers et la géographie et l'histoire et l'espace et le temps. Très différent, Motsimono.
Alors, moi, j'ai... Je dis souvent que je dois tout à l'École de la République et aux bibliothèques. Je me souviens très bien de cette collection, en effet, mais ça m'a touchée qui est Cyrano de Bergerac parce que c'est un livre que j'ai lu très jeune et qui m'avait bouleversée. Donc voilà, j'ai lu les choses dans un joyeux désordre, pas toujours des choses de mon âge au bon moment, mais en tout cas, ça fait voyager dans le temps, dans des endroits merveilleux et c'est sûr que c'est un apprentissage aussi des mots, de l'étymologie et de la poésie dont on se remplit, en fait, en continu.
D'ailleurs, l'univers de votre roman, L'Enfant Céleste, est très poétique, hein, très inspiré aussi par cette poésie. Et par quelle autre littérature, diriez-vous ?
Essentiellement, c'était de la poésie des écrivains. Là, on vient de perdre Jules Stéphane, par exemple, des gens comme Jacques Reda, Jacques Otet, Giono aussi, des écrivains de la nature, Genevoix. Voilà, c'est eux qui m'ont inspirée. J'ai eu une grande attention aux mots dans ce texte parce que c'est important quand on parle de la nature d'avoir les mots justes. On m'a appris quand j'étais enfant que pour aimer les choses, il fallait bien les nommer. essayer de bien les écrire aussi.
Du coup, vous êtes très attentive à ça, à l'orthographe, à la manière de dire, d'écrire aussi les choses chez les autres. Ou c'est une exigence que vous vous appliquez surtout à vous-même?
Pour moi, c'est une grande souffrance. L'orthographe, en réalité, je fais des efforts continuels. Je n'ai pas une orthographe bonne naturellement. J'ai appris à écrire toute seule et d'une façon peu académique. Et je fais des fautes. Si je me relis pas, c'est épouvantable. Et on s'est beaucoup moqué de moi. Donc, je suis tout à fait compatissante avec les gens qui font des fautes. Mais j'aime ça, l'étymologie. Et là, je travaille chez Gallimard. J'ai la chance de travailler avec un service de correction merveilleux. Et je suis passionnée de ce qu'ils me racontent. Parce que on avait la chance d'entendre tout à l'heure un arrêt. Mais c'est un voyage à chaque fois. L'étymologie, le sens des mots et... les explications illogiques, parfois, de tout ça, me font rêver.
Alors justement, dans votre comité de lecture, celui des éditions Gallimard, dont vous êtes membre, hein, un manuscrit arrive truffé de fautes d'orthographe, c'est rédhibitoire?
Pas du tout. Je ne vais pas citer de nom d'auteur, mais parmi les auteurs dont je m'occupe, certains qui sont les plus brillants et les plus intelligents n'ont pas une orthographe très sûre. Et ça n'a aucune importance, heureusement.
Vous travaillez surtout dans ce roman avec tout un répertoire, un vocabulaire du sensible, du rêve, avec ce personnage, comme l'indique le titre du roman, l'enfant céleste, un vocabulaire à la fois aérien et d'autres diraient cristallin. La langue française permet tout ça. Est-ce que c'est le cas d'autres langues? Vous avez grandi en France, vous avez vécu en Norvège. D'ailleurs, ce roman s'inscrit dans ces territoires du Grand Nord. Est-ce que vous trouvez que la langue française est vraiment porteuse de cet imaginaire-là, tout particulièrement?
Oui, elle l'est pour les descriptions. J'ai eu entre les mains des textes justement d'astronomes de cette époque-là, et c'est d'une poésie extraordinaire. Le luxe d'adjectifs pour décrire justement le monde céleste n'a pas de limite. Et j'ai appris, moi, beaucoup de mots qui paraissaient un peu exotiques et donc qui étaient propices à un voyage onérique et que je me suis approprié. Voilà, tout ça est toujours très très beau. J'aime bien le vocabulaire de la géologie, par exemple, aussi, et je suis très sensible à ça.
Comment on arrive à domestiquer la langue et les mots, petit à petit? Est-ce que c'est aussi par la lecture à voix haute? Est-ce que vous la pratiquez?
Depuis que j'ai des enfants, oui. Mais avant, non, j'avais jamais lu, j'avais pas cette habitude-là, en tout cas. Contrairement, justement, vous parliez des pays nordiques, eux, ils ont l'habitude de lire, ils font des lectures systématiquement, et il y a toujours beaucoup de monde qui assiste à ça. Avec un verre à la main, en général, c'est l'occasion de boire aussi. On n'a pas, ça va venir, ça vient hein, de plus en plus. On sent en France et je trouve ça très joyeux. C'est pour ça que les dictées telles que vous les faites me paraissent vraiment une idée merveilleuse. Lire à voix haute, faire participer, faire ça de façon collective, c'est vraiment chouette.
Voilà, et autour de ces grands textes aussi qui nous sont chers, comme aujourd'hui Edmond de Rostand, extrait de Cyrano de Bergerac, un grand classique, une pièce qu'on aura toujours plaisir à lire et à relire, moment plaisir collectif, mais à distance encore en ce moment, j'espère, pour plus trop longtemps, et qu'on pourra bientôt se retrouver et refaire des dictées tous ensemble, ici à Radio France. Merci beaucoup à vous, Rachid Santaki, et un grand merci à vous, Maud Simoneau, d'avoir participé, de vous être prêté au jeu de cette dictée. L'Enfant Céleste, votre roman, apparu aux éditions de l'Observatoire. Merci Maud.